RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Bonjour à tous. C'est parti pour 3 heures de discussion avec les GG, avec les grandes gueules en direct sur RMC, la radio, RMC Story, la télé. Vous connaissez le principe. Pour réagir avec les grandes gueules, c'est le 32-16 qui est à votre disposition. De retour dans les GG, dans les grandes gueules. Un passage éclair avant qu'elle retourne sur son île de beauté. C'est Laura Varton Martinez, la sophrologue, qui est avec nous. Bonjour Laura.
Hola a todos et bonjour a tutti.
Nous sommes avec Abel Bouilly, l'éducateur, qui est des nôtres aussi. Bonjour Abel.
Salut les amis.
Nous sommes accompagnés par Antoine Diers, qui est là aussi, le consultant juridique. Bonjour mon cher Antoine.
Salut Alain et bonjour à tous.
Voilà, des sujets de discussion, il va y en avoir dans les GG, dans les grandes gueules. Vous allez pouvoir prendre la parole avec nous pour parler de l'éclipse. Les écologistes ne sont pas contents, paraît-il. C'était comme en 99, à l'État d'acheter une partie des lunettes. Les retraites, l'État aussi qui veut un gel des pensions les plus élevées. Quand on regarde les plus élevées, c'est à partir de 3000 euros. Alors est-ce qu'à 3000 euros, on est dans les pensions élevées, les retraites élevées? Aisé viendra en parler avec nous. Les voitures électriques, le Royaume-Uni va instaurer une taxe au kilomètre. Est-ce qu'il va y avoir la même chose en France?
Évidemment.
On entend déjà, évidemment. Là encore, vous viendrez en discuter avec les GG. On reparlera de l'attaque aussi à Toulouse contre les policiers municipaux. Le profil du suspect qui interroge. Est-ce qu'on a affaire à une attaque terroriste? Est-ce qu'on peut poser la question directement? Là aussi, on en parlera à partir de 10h. Mais là, je voudrais qu'on continue un feuilleton. Vous savez, le feuilleton des emplois à la RATP. Je ne sais pas si on est face à un scandale, s'il faut une mission d'enquête parlementaire. Enfin, ça mérite quand même qu'on continue d'en parler parce que c'est de l'argent public aussi dont il est question. De quoi s'agit-il? Depuis une semaine, vous savez qu'il y a le feuilleton entre la France insoumise et le Canard enchaîné à propos de la double casquette de Monsieur Bali Bagayoko, le maire de la France insoumise de Saint-Denis, qui avant son élection, c'est ce que nous a appris le Canard, cumulait des fonctions d'élu local avec un emploi de cadre à temps plein à la RATP qui était payé 6000 euros par mois. Et au moment où il avait perdu un mandat local, on avait aussi augmenté ses indemnités d'élu pour que, enfin, il se retrouve pas là, grosso modo, si j'ai bien compris. L'association anticorruption qui est dirigée par l'ancien magistrat Eric Alphen a saisi le parquet national financier. Ce qui est intéressant, et on pouvait s'en douter que le Canard enchaîné continuerait de feuilletonner, c'est ce que raconte l'hebdomadaire. Et il revient sur ce qu'a écrit Jacques Marceau, l'ancien bras droit de l'ex-maire de Saint-Denis, Patrick Braouzet, qui est un communiste. Et dans son livre Passion commune, il raconte, ça surprend personne, on le savait de toute façon, il y avait 200 agents de la régie titulaires d'un mandat électif, des élus de droite comme de gauche, avec, précise Jacques Marceau, des facilités pour exercer leur mandat. C'était quoi? C'était du réseau. Tout simplement, il s'agissait de placer à la RATP et de s'arranger avec des élus locaux, droite, gauche, tout confondu, on leur aménageait leurs horaires, ils avaient leur rémunération. Le principal, c'était qu'ils soient élus, la RATP. On verra après. Donc, est-ce qu'on est vraiment face à un scandale? Est-ce qu'il faut une mission parlementaire? Est-ce qu'il faut que Jean Castex, qui est l'actuel PDG de la RATP, sorte de la torpeur des vacances et nous dise précisément ce qu'il en est? Que les syndicats aussi s'en mêlent, eux qui sont promptes aussi à dénoncer leur bas salaire, éventuellement les conditions de travail. On a un vrai dossier, 32-16 pour en discuter avec les GG, la RATP qui emploie des élus locaux. Est-ce que c'est scandaleux, Abel Bouilly?
Déjà, je suis très content qu'on aborde ce sujet parce que c'est vrai qu'il y a l'affaire Bali Bagayoko, comme s'il fallait se le faire, mais tout de suite, moi, j'ai pensé à un système qui était beaucoup plus gros. C'est-à-dire que lui n'est qu'un pion dans un système qui, semble-t-il, est organisé et pour lequel on savait depuis un certain temps qu'il y avait un certain nombre d'élus qui avaient pu bénéficier de cela.
Parce que lui, il ne répond pas sur le fond. Il dit c'est de l'acharnement, c'est du racisme.
Il est peut-être qu'il est dans une injonction par rapport à la communication du parti aussi. Et on sait qu'il y a l'élection présidentielle. présidentielle qui va commencer et que indirectement, en touchant Bali Bagayoko, on touche aussi à l'élan que veut donner Jean-Luc Mélenchon à sa campagne. Mais ce système...
Aucun ne répond sur le fond.
Oui, mais ça c'est clair, c'est un petit peu le cynisme politique. Mais maintenant, c'est clair qu'il y a un système sur lequel il faut lever le couvercle parce que il n'est pas normal qu'un élu puisse bosser à la RATP et avoir des horaires aménagés tout en touchant un salaire important, parce que des fois on parle de salaire de cadre alors que tu as des salariés qui se cassent le derrière au quotidien. Donc oui, je pense qu'il faut lever le voile. Pourquoi ce système? À quelle ampleur? Et surtout, quel est l'intérêt de ce système? Y a-t-il un intérêt clientéliste? Quel est le rapport de la RATP avec les municipalités concernées aussi? Tout ça, il faut le savoir et j'espère qu'il y aura une commission d'enquête parlementaire, effectivement.
Oui, effectivement, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Abel. Il nous faut une commission d'enquête. Deux points. Déjà, moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est comment c'est possible, parce qu'il me semble qu'un fonctionnaire de l'État français n'a pas le droit de cumuler n'importe quel travail.
C'est pour ça que l'association anti-corruption.
Voilà. Comment c'est possible? Nos fonctionnaires français ne peuvent même pas parfois créer une micro-entreprise ou une auto-entreprise pour pouvoir avoir une activité secondaire, ce qui permettrait accessoirement à l'État de gagner plus de recettes fiscales. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Donc on empêche les Français lambda. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point, à mon sens, pourquoi ça fait autant de bruit avec Monsieur Bali Bagayoko, c'est
Bagayoko,
excuse-moi et pardon à Monsieur, c'est l'exemplarité que prône LFI. Il tape constamment et de manière vraiment parfois honteuse sur toutes les formes de corruption, sur le fait que eux, ce sera le parti de l'exemplarité, qu'ils ne sont pas avec ce système-là. Et en fait, on se rend compte à chaque fois que effectivement, LFI sont comme tous ces autres personnages politiques qui croquent de la même manière.
Antoine Dierz.
Cette affaire m'intéresse beaucoup et donc j'ai creusé. Et tu découvres par exemple une section PCF à la RATP, avec un joli site internet, la section PCF de la RATP, avec des journaux, avec quand même pas mal d'élus locaux, des élus PCF, adjoints au maire, etc., du 9-3. Tu as aussi une section CGT de la RATP, où tu retrouves également pas mal d'élus PCF qui sont signés. J'ai rien contre les syndicats, mais tu as une espèce de concentration.
Souviens-toi qu'il y avait une porosité à une époque très forte entre la CGT et le Parti communiste.
Évidemment, mais tu as une espèce de concentration d'élus locaux PCF à la RATP, manifestement. Et tu regardes un petit peu l'histoire et tu vois un programme politique de la ville développé à partir de 1999 avec de nombreux cadres issus de la Seine-Saint-Denis et des communes PCF. Pile au moment où on est sous le gouvernement Jospin, on a monsieur Bartolone et monsieur Guesso qui sont au gouvernement, qui sont ministres, et monsieur Guesso est notamment ministre
transport.
Des transports.
Communiste.
Et il est PCF.
Oui.
Et donc tu te dis, il y a peut-être une connexion Seine-Saint-Denis, PCF, RATP, et tu poursuis et tu te rends compte que la RATP a des directeurs qui sont nommés par le gouvernement, et que, et c'est là où ça me chagrine, après le changement de pouvoir, sous le gouvernement Chirac, etc., il y a eu des directeurs de droite qui ont été nommés, et qui semblent avoir... continuer à mettre en œuvre ce système.
C'est ce qui est raconté notamment dans le livre de Jacques Marceau, c'est que ces 200 emplois d'élus locaux concernent toutes les familles politiques. C'est du réseau, quoi, en fait.
Et donc, j'ai le sentiment de ce que je vois, c'est que ça part de Seine-Saint-Denis, du PCF, et qu'en fait, pour faire durer le système, on a dû faire croquer, à mon avis, à tous les partis. On a pris des adjoints aux maires de droite, de gauche, etc. Et donc, tu te dis, là, on a peut-être un truc qui dépasse même le seul cadre de la gauche. On a peut-être un truc où tout le monde s'est arrangé pour faire avoir un salaire à des amis. Et ben moi, j'espère que le parquet national financier, qui a vu une plainte déposée, s'en saisisse et que avant la présidentielle, on ait fait la lumière sur tous ceux qui en ont bénéficié. Parce que ça mine gravement la confiance des Français envers le politique. Donc il faut faire le ménage.
Quel est l'intérêt? Enfin, moi, c'est ça que j'ai pas. C'est hormis vouloir s'engraisser, mais à la limite, ce serait anecdotique. Ce serait quelques élus locaux qui cumuleraient pour s'engraisser. Mais là, que ça touche autant de politiques de tous les bords, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe en dessous?
Parce que c'est une entreprise publique, parce que c'est un système, parce que tu t'arranges, parce que tu dis on emploie un tel à la RATP, vous inquiétez pas. Et puis ça te fait des relais locaux, ça te fait des relais ministériels, ça te permet ensuite peut-être de faire des affaires quand tu es embauché dans un département, de dire tiens, à propos, n'oubliez pas la subvention, n'oubliez pas le passage de la ligne à tel endroit. On s'arrange, c'est des petits arrangements entre amis, si tu veux,
sur le dos des Français.
Sur le dos des Français et surtout sur le dos d'une entreprise. entreprise avec des employés qui de temps en temps se disent mais attendez, on comprend pas, lui il travaille ou il travaille pas,
voilà,
mais... je sais qu'à une époque on avait pointé la SNCF aussi sur ce genre de choses. Mm-hmm. Souviens-toi, il y avait aussi la Compagnie Générale des Eaux à une époque, mm-hmm. à une grande époque là, Elf aussi qui employait, c'était des entreprises qui employaient des politiques, mm-hmm. qui faisaient des emplois, est-ce que c'était des emplois fictifs ou pas, on s'est aperçu que c'était des emplois mm-hmm. fictifs et ça servait simplement de relais de pouvoir.
Moi je fais une petite différence entre l'entreprise parfaitement privée qui choisirait d'embaucher un élu pour faire de l'influence, ce qu'on appelle de l'influence, des relations publiques.
C'est pas de la corruption.
Non, de l'influence. Vraiment, non.
Je parle de scandales qui ont éclaté.
Ouais. Oui, moi, je peux comprendre ça. En revanche, quand on est une entreprise, RATP n'est pas une entreprise publique, mais semi-publique qui travaille sur du service public, là, on doit être très, très exigeant sur le fait qu'il ne puisse pas y avoir des élus nommés par copinage. Mais tu vois, je fais une différence entre la vraie entreprise privée...
À partir du moment où c'est semi-public, c'est-à-dire qu'une partie de nos impôts subventionne la RATP.
Notre partie, c'est une compte en banque directement.
On a des élus de tous bords politiques qui ont des emplois du temps aménagés, c'est-à-dire qui ont des emplois à minima semi-fictifs, ce qui est quelque chose de dangereux.
Ça restera à démontrer, notamment
bien
dans
sûr,
le cadre de Bali Bakayoko, qui nous disent ce qu'il a fait.
Oui, mais pas que lui. C'est-à-dire que moi, ce que
je veux savoir... C'est un système.
Voilà. Moi, je veux qu'on mette la lumière sur tout un système, parce que c'est encore potentiellement un nouveau scandale d'État. Mais on est tellement fatigué au quotidien que les scandales passent, en fait, et ça ne nous fait même plus réagir aujourd'hui. C'est-à-dire que t'as des gens qui ont bouffé l'argent des Français. Et Jean Castex, quand il est arrivé à la tête de la RATP, pourquoi il n'a pas pointé le doigt dessus? Il aurait dû faire un audit de l'activité de l'entreprise et pointer du doigt sur ce qui ne va pas. On a l'impression que ça ne l'a pas gêné. Donc lui aussi, il faudrait l'écouter et écouter tous ses prédécesseurs aussi, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc aujourd'hui, moi, je veux bien que les politiques nous parlent d'opérations place nette dans les quartiers, mais les opérations place nette, faut les faire dans le milieu politique, parce que c'est encore du copinage, encore de l'argent qui disparaît, et c'est encore à nous qu'on demande de payer. On nous taxe tous les jours, on nous ronge jusqu'à l'os, et eux, ils se rincent sur nous, ils se gaffent sur nous, c'est plus possible.
Bah, surtout que ce que raconte le canard enchaîné, c'est que c'était su et connu.
Mais bien sûr.
C'était donc un système qui était bien installé. Parce que là, quand ils font référence à Jacques Marceau, l'ancien bras droit de l'ex-maire communiste, ils parlent d'un livre qui est sorti en 2018. Donc quelque chose qui était public. On en a 8 ans. Mais au sein même des responsables politiques, c'est donc quelque chose qui était connu. Et c'était des embauches, des entrées, des sorties qui étaient... qui se faisait de manière naturelle, sans que ça ne choque personne à ce moment-là. Quoi. Mm-hmm. C'est Jean-Pierre qui veut en parler avec nous. Jean-Pierre qui est dans les Alpes-Maritimes, fonctionnaire de police, et qui veut réagir. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour.
Bonjour. Attention Jean-Pierre, mettez-vous bien près du téléphone ou enlevez le haut-parleur.
Je suis près du téléphone.
Voilà. Vous vouliez réagir à cette affaire. Pourquoi Jean-Pierre ?
Alors, je veux réagir sur les propos que vous avez tenus.
Oui.
Je suis à la retraite. À une époque de ma vie, sur la région parisienne, j'étais fonctionnaire de police. J'ai été élu premier adjoint sur une commune de Seine-et-Marne.
Oui.
Je percevais mon salaire de fonctionnaire de police, je percevais l'indemnité due du premier adjoint. Quand j'avais un conseil municipal, je sollicitais ma hiérarchie un jour de congé spécial qui m'était octroyé. Je crois que je devais en avoir six par an. Et quand il y avait des choses vraiment très particulières, je faisais une lettre à mon administration qui l'administration m'accordait ou non le congé pour des réunions à droite ou à gauche.
Oui, mais sauf que là, on ne parle pas de la même chose.
Mais à titre personnel, je n'ai pas eu d'emploi fictif parce que je faisais mon métier de policier.
Voilà.
La seule condition qui m'était demandée, c'est de ne pas être élu sur le secteur où je travaillais.
Mais là, c'est l'inverse, Jean-Pierre.
C'est la même chose.
Vous étiez fonctionnaire de police et vous avez été élu. Là, ce qui se passe, c'est complètement l'inverse. Ça change la donne. C'est parce que vous avez été élu que vous avez été recruté par la RATP. Et là, il y a problème. Et en plus, vous avez le droit, si vous émanez du privé, vous avez le droit d'être élu. En revanche, c'est à partir du moment où vous êtes élu, vous n'avez plus le droit d'avoir une entreprise privée à côté.
C'est surtout, Jean-Pierre, parce que vous, ce que vous dites, vous aviez votre emploi de policier que vous exerciez à 100% et vous mettiez en disponibilité quand il y avait un conseil municipal. Là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que ces élus, en fait, étaient des élus, alors c'est ce que devront déterminer l'enquête, voilà, à temps plein, mais ils étaient rémunérés pour des emplois, et c'est toute la question qui est posée, savoir s'ils les occupaient, s'ils exerçaient leur fonction ou pas. C'est ça la question aujourd'hui qui est posée, Jean-Pierre.
Je suis bien d'accord avec vous, mais c'est parce que vous avez dit qu'on ne pouvait pas le faire. Rien ne me dit que ce charmant maire de Saint-Denis n'ait pas été embauché par les RATP avant ses mandats. À l'heure actuelle, j'en sais rien.
Ouais, mais je crois que c'est après, mais en fait, c'est assez simple. Le règlement de la RATP prévoit évidemment les décharges horaires pour celui qui est élu, mais il prévoit que dans ces cas-là, le salaire est amputé du temps qu'il n'est pas travaillé.
Exactement.
Et donc, si c'est hyper clair que la RATP nous montre, au-delà des conditions d'embauche, hein, qui sont peut-être discutables, mais une fois en poste, que la RATP nous montre que Bali Bakayoko a posé des jours de congé.
Et tous les autres, et les 200 voilà, personnes,
et les 200 élus,
et les 200 élus, donc
ils ont posé des jours de congé, ils ont eu des autorisations spéciales d'absence, et que c'était pas open bar, t'es là, t'es pas là, t'es payé.
Et puis quand même de façon toute simple, 200 élus, quel est cet attrait formidable pour la RATP quand on est élu de la République? Quel est ce lien?
Peut-être qu'ils conduisaient, ils avaient des envies de conduire.
C'est cette envie de servir le peuple, mais de les mener d'un point A à un point B. Je veux voir les Français arriver à l'heure à leur travail.
On ne les connaissait pas. Certains étaient même au guichet.
Voilà.
En train de vendre les tickets. Nos passes Navigo. On ne les a pas reconnus parce qu'ils tenaient à être au service du public. Pardon, Jean-Pierre, on rigole un peu, mais c'est vrai que je trouve ça atterrant.
Je voulais juste dire qu'ils rentraient à la RATP juste pour pouvoir bénéficier de la gratuité des transports.
Ils bénéficient pas que de ça, hein. Ils ont quand même un petit salaire qui est sympathique, hein.
Mais Jean-Pierre, je vous remercie d'avoir été avec nous, mais je crois d'ailleurs quand on est élu, on a déjà des facilités pour les transports. Quand vous êtes député ou autre.
Oui, député.
Oui, ouais, oui, voilà, mais pas en élu.
Tu as des trajets.
On a évoqué Jean Castex tout à l'heure, mais je crois qu'il n'est plus à la RATP. Je pense qu'il est passé à la SNCF.
Oui, il est passé à la SNCF. Tu as raison. C'est moi qui me suis trompé.
Enfin, en attendant, ça se passait déjà quand il y était. Donc il
Mais tu vois, aujourd'hui, Valérie Pécresse, qui est à la tête de la région Île-de-France et du STIF, du syndicat des transports d'Île-de-France, elle demande à ce que la lumière soit faite. Moi, je pense que c'est vraiment un dossier qu'il faut pas laisser passer. Alors, le canard enchaîné va effectivement essayer de le feuilletonner. Il faut pas que du côté de la France insoumise, tu vois, on joue la victimisation. Ou que monsieur Bali Bagayoko, lui-même, monsieur le maire, se mette sur les réseaux sociaux en disant, regardez, c'est à moi qu'on en veut, c'est de l'acharnement. C'est pas de l'acharnement, je pense que c'est de la transparence. Et jouer la carte de la victimisation et la carte du racisme, je pense que c'est pas la bonne carte à jouer dans cette affaire, quoi. C'est simplement de faire la lumière et de dire aux Français, de dire aux contribuables, il y a eu faute, il y a pas eu faute, il y a eu emploi fictif ou pas. Simplement qu'on sache la vérité.
Moi, je pense que sur ce dossier, faut balancer ce que l'on sait, tout simplement. Et c'est là qu'on va voir. Non, mais en fait, on va voir comment chaque élément va réagir. Comment va réagir la RATP, parce qu'elle devra fournir les preuves que les personnes ont réellement travaillé. Comment vont réagir tous ces élus? Comment vont réagir aussi les communes? Comment vont réagir tous les éléments
du réseau? Si on est dans un système, si tu veux, si tout le monde se tient, personne n'a peut-être intérêt à ce que les histoires sortent et qu'on fasse la vérité sur les histoires.
À mon avis, si ça sort déjà comme ça, c'est qu'il y a des fissures dans le mur. Et probablement que le canard enchaîné va sortir d'autres éléments. Comme tu l'as dit, ils vont le feuilletonner. Et en plus, il y a un calendrier des campagnes présidentielles qui va commencer.
C'est ce que dit Bali Bagayoko, d'ailleurs, lui-même dit, en fait, je suis victime dans cette histoire de règlement de compte politique, sans répondre sur le fond.
Mais le règlement de compte, après, je te laisse la parole. Il accuse la gauche, par contre. Il a dit que c'est le Parti Socialiste. Et en fait, on a affaire à une guerre entre les gauches. Parce que même sur la commune de Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, c'est la gauche qui lui tape le plus dessus, hein, notamment le Parti Socialiste. Hier, tu as fait état de cette vidéo où il filmait quelqu'un qui déchirait sa carte du Parti Socialiste. Il y a une guerre fratricide qui est très importante et certains vont y laisser des plumes.
Et moi, tout ce que je voulais dire, c'est que je pense que ça concerne essentiellement la gauche, même s'il doit y avoir quelques élus de droite, et j'espère que ça va être au moins aussi suivi que Pénélope Fillon a été suivie pour son emploi fictif. Parce qu'on a un peu l'impression que quand c'est la droite qui fait ça, c'est très suivi, on en parle dans tous les médias, et que quand c'est la gauche, ça arrive bien souvent à disparaître tranquillement. Donc moi, j'y serai attentif à cette affaire, parce que je pense que la gauche est majoritairement concernée et que bien souvent, ils arrivent à éteindre les trucs.
Et puis en plus, on est là au cœur de l'été. Alors il faudra voir si à la rentrée, parce qu'à la rentrée, on va passer immédiatement, là, partir de début septembre, dans la campagne pour l'élection présidentielle. Il faudra pas lâcher le dossier. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on commence à taper sur l'association assez anticorruption parce qu'elle est dirigée par Éric Alphen, qui un temps a été investi comme candidat. D'ailleurs, je crois pour, je ne sais plus si c'est Renaissance ou
peut-être Junior, je sais.
Ou le En Marche, je crois. Et donc, on dit, bah, voyez, c'est politique, cette histoire aussi.
Oui, mais cette victimisation, elle est insupportable. Ils doivent rendre des comptes aux Français. C'est peu
importe
qui.
Sauf que Eric Alphen, rappelez-vous que c'est aussi le magistrat qui est allé au bout de l'affaire Chirac et qui a réussi à faire condamner Jacques Chirac derrière. Alors, est-ce que c'est un scandale, la RATP qui emploie des élus locaux? Est-ce que c'est scandaleux? On va regarder ce que vous en pensez sur les réseaux sociaux. Scandaleux, oui ou non?
Oui,
vous dites
voilà.
Oui. Ah, bah, voilà. À plus de 95%, il faut que cette affaire continue.
Oh, l'argent.
Et 5%, c'est les élus qui ont voté.
Et qu'on sache la vérité. On a une proposition dans un instant. Un député européen et sapeur-pompier. Il veut qu'on remette des cendriers dans les voitures. Est-ce qu'il a raison ou pas? 32-16 pour en discuter. Discuter avec les GG, avec les grandes gueules, il est 9h20.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4. Vous êtes avec les GG, avec les grandes gueules en direct sur RMC et RMC Story. La radio, c'est RMC, RMC Story, c'est la télé, c'est sur le canal 23 de la TNT. Qui est là aujourd'hui? Laura Vartan-Martinez, la sophrologue. Nous sommes avec Abel Boyer, l'éducateur. Et avec Antoine Diers, le consultant juridique. De quoi va-t-on parler maintenant? Des incendies, ou plutôt de ceux qui ont provoqué les incendies. Et c'est vrai qu'il y a, hormis les pyromanes qui ont été interpellés, ce que l'on a vu vraiment, que l'on a pris sur le fait en train de mettre les incendies. Il y a eu une condamnation à 2 ans de prison là avec sursis pour quelqu'un qui, avec un chalumeau, a été vu en train de mettre le feu. Il y a toujours la question, vous savez, des mégots jetés par la fenêtre. Et là, il y a une proposition. La proposition, c'est de remettre des cendriers dans les voitures pour éviter les mégots par la fenêtre. C'est vrai que moi qui étais fumeur, qui était dans ma voiture, le cendrier rempli le matin quand vous reveniez dans votre voiture avec l'odeur du tabac froid, c'était pas terrible. Mais vous écrasiez votre cigarette dans le cendrier de la voiture. Aujourd'hui, il n'y en a plus, au nom de la santé publique. C'est le sapeur-pompier et eurodéputé professionnel Grégory Allion qui dit que c'est aussi aux constructeurs automobiles de remettre des cendriers dans l'habitacle. Selon lui, c'est pas un gadget, c'est juste une petite installation à remettre et ça éviterait les départs de feu. Alors, est-ce qu'il a raison ou pas? Est-ce qu'il faut remettre les cendriers dans les voitures? 32-16 pour... Est-ce que c'est anecdotique ou pas? 32-16 pour en parler avec les GG. Laura?
C'est pavé de bonnes intentions, mais je pense pas que ça va rajouter des neurones à ceux qui jettent leur clope par la fenêtre en pleine canicule. Enfin, moi, quand j'étais encore fumeuse, j'avais toujours dans ma voiture.
Et tu vapotes.
Maintenant, je vapote, mais j'avais toujours dans ma voiture, soit vous savez les petits cendriers de plage et tout, ou alors un fond de bouteille d'eau avec de l'eau et je mettais ma clope dans ma bouteille d'eau. Mais parce que j'ai des neurones, je pense que un imbécile qui décide en pleine garrigue de jeter sa clope par la fenêtre, malheureusement pour lui, on peut plus rien faire.
Abel.
Alors, je suis d'accord avec toi. Après, on a affaire au désarroi d'un pompier face à une situation catastrophique aussi. Donc, en réalité, oui, il faut le faire, mais c'est vraiment stupide qu'on en soit arrivé au point où faut faire cette injonction qui est quand même d'une banalité hors norme, en fait. Et ça montre à quel point le pays, à quel point même l'être humain, dans son rapport à lui-même, dans son rapport aux autres, dans son rapport à la nature, et l'image, là, l'illustre très bien. On est tombé si bas, il n'y a plus de valeur dans ce pays. On sait que l'été, il y a des temps de canicule, que c'est extrêmement dangereux. On a trouvé des gens qui ont balancé leurs cigarettes. On a trouvé des gens qui ont organisé des barbecues. On a trouvé un pompier pyromane. Il n'y a rien qui va. Donc, je dirais oui, il faut le faire. Mais en réalité, ça fait presque pitié, en fait, de dire oui. Et cet eurodéputé fait presque pitié. Parce qu'il est, ben oui, mais je le dis avec bienveillance. Oui. C'est-à-dire qu'il est tellement démuni face à cette situation. Et comme tu dis, a priori, c'est un pompier ou quelqu'un qui a eu une expérience dans ce corps de métier. Donc, qui voit les pompiers sur le terrain comme ses frères d'armes, en réalité. Et on sait qu'aujourd'hui, les pompiers, en plus, se plaignent de leurs conditions de travail. Il risque d'y avoir une crise des vocations. Il y a un danger aussi au niveau de la crise des vocations chez les pompiers volontaires. Ils vont être reçus par Laurent Nunez et ils risquent d'être potentiellement enfumés par un discours politique parce que ça fait des années en fait qu'ils se plaignent dans leurs conditions. Et les pompiers, qu'est-ce qu'ils demandent? Ils ne demandent pas à être traités comme des héros. Ils demandent à pouvoir travailler d'une façon digne et avec des moyens suffisants. Et les pompiers, tu sais, souvent, on les applaudit quand il y a des incendies et on les oublie par la suite. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour un pompier ou pour quelqu'un qui a cet esprit, et je parle en ta présence...
On les oublie. Non, les Français n'oublient jamais. Les les pompiers. C'est un des corps de métier préférés des Français, les pompiers.
C'est préféré, oui.
En qui ils ont le plus confiance, d'ailleurs, mais ce sont les politiques qui les oublient.
Oui,
c'est pas la population.
Effectivement, les politiques, et toi qui es volontaire aussi, pas dans le corps des pompiers, mais au niveau de l'armée. Une médaille ne remplacera jamais, en fait, un canadair qui manque. Une médaille ne remplacera jamais un camion-citerne qui manque. Et pire que cela, une médaille ne remplacera jamais un frère d'armes qui est mort, en fait, au combat. Donc, je comprends ce désarroi, mais ça montre à quel point on est tombé bien bas, malheureusement.
Antoine Dierz.
Moi, quand j'ai préparé le sujet, je me suis dit, mais de toutes les façons, c'est interdit de fumer au volant. Et en fait, donc, j'ai regardé, c'est interdit de fumer quand il y a un mineur dans la voiture. Et c'est pas très clair, c'est pas franchement interdit sinon, mais on peut considérer que le conducteur est gêné dans sa conduite en manipulant la cigarette, et donc un policier serait en mesure de mettre une amende de 35 € pour le gêne dans la conduite, l'absence de réactivité. Mais en fait, moi je suis fumeur occasionnel, j'adore fumer une cigarette en terrasse, c'est pas bien, mais voilà, fumeur occasionnel.
Et
je pense qu'en fait ça devrait être interdit au volant. Je suis pas du genre
libéral, mais toi qui ne cesse justement de prôner la liberté, de dire qu'il y en a assez avec les contraintes, alors là tu m'étonnes.
Je vais te dire, je pense qu'on ne peut pas fumer et tenir un volant
bien
en même temps.
Si.
Alors on n'a plus le droit de regarder son téléphone, mais on aurait le droit de fumer. Bah, c'est exactement la même distraction.
Tu peux tenir ton volant avec ta clope.
Moi en fait, tu vois, là pour le coup, je vais te dire. On devrait avoir l'interdiction de fumer en conduisant. Tu peux pas faire deux choses en même temps. Et ça règle le truc des mégots jetés par la fenêtre.
Moi, je pense que je suis plus attentive quand je fumais une clope sur mon volant plutôt que quand je chantais Céline Dion à fond les ballons. Perso.
Je pense vraiment qu'on peut pas conduire, fumer en même temps.
On remet des cendriers parce que ça évite effectivement sur la route. À un moment, tu sais, t'arrives sur la fin de ta
cendrier.
Moi, je me souviens très bien.
Tu vas
après,
devoir
ça
baisser
rien,
les yeux.
Faisons-le.
Tu vas devoir baisser les yeux pour chercher ton cendrier.
Non, parce que c'est là.
Tu te souviens pas, voilà. Mais le cendrier, t'avais la position, tu avais le volant, tu avais la console centrale, et tu avais le cendrier que tu tirais. Et pendant que tu fumais, même tu glissais, tu collais ta cigarette dans ton cendrier de voiture. Tu pouvais conduire. T'avais toujours un feu rouge.
C'est instinctif. T'avais l'allume-cigare, le standard.
Des fois, tu tirais deux taffes, comme on disait. Et puis la cigarette, elle finissait de se consumer dans le cendrier. Mais tu l'as posé, c'était instinctif. C'était d'ailleurs assez pratique parce que tu pouvais même glisser le paquet de cigarettes à côté. Tu mettais ton briquet. Tu avais même l'allume-cigarette. Maintenant, il y est. Ça n'existe plus.
Tu avais l'allume-cigare, le standard et le coin à clope. C'est parfait.
Pour moi, c'est la prise pour brancher le téléphone, votre allume-cigare. Mais effectivement, je n'imagine pas. Parce que je n'ai pas connu.
Parce que tu l'as pas connu.
Parce que j'ai pas connu. Mais j'imagine pas qu'on fume au volant.
Mais c'était pratique. Et puis tu avais d'ailleurs, pour ceux qui fumaient pas, le cendrier, ça servait pour mettre
le porte-monnaie.
Tu mettais le porte-monnaie, tu mettais des pièces.
Exactement.
C'était un petit truc de rangement. Aujourd'hui d'ailleurs, on l'a supprimé, je sais pas pourquoi. Tu vois, je comprends pas. C'était
parce que c'est peut-être inesthétique.
D'utile.
Et maintenant t'as tous les trucs digitalisés.
Moi je comprends la proposition de Grégory Allion, parce que l'été avec les va-et-vient de voitures, si tu veux,
il suffit.
Laura, elle disait, moi je suis quelqu'un de raisonnable, j'avais ma bouteille d'eau ou j'avais mon petit cendrier métallique qui me servait pour éteindre ma cigarette. Aujourd'hui tu l'as pas, tu fumes ta cigarette, t'es dans la route, tu sais pas quoi en faire. Ben machinalement tu dis bah tant pis, et tu dis ouais, je suis pas loin d'une forêt, sauf qu'au moment où tu jettes ton mégot, tu sais pas comment il va rebondir, tu sais pas ce que.
Essayons, ça coûte rien.
Si tu veux avoir un cendrier dans la voiture, t'as des trucs qui ont la forme d'un gobelet, qui se mettent exactement dans le trou du gobelet et qui sont des cendriers. Allez pas obliger les gens à repayer dans une voiture un cendrier pour tout le monde alors qu'ils en auront pas besoin. Que le fumeur ajoute ce cendrier. Et donc dans ces cas-là,
moi je suis pour la responsabilité individuelle à chaque fois. Donc
si tu fumes au volant, si on le maintient autorisé, l'obligation d'avoir un cendrier. Ok. Oui. Mais obligez pas tout le monde à avoir un cendrier, y compris ceux qui ne fument pas.
Obligation d'avoir un cendrier, c'est-à-dire.
Si tu es contrôlé en train de fumer au volant, puisque.
Un peu comme le gilet jaune et le triangle, c'est-à-dire tu veux qu'on ait un petit cendrier, amovible dans la voiture.
Si tu es pris en train de fumer, on doit pouvoir te dire, monsieur, il est où votre cendrier? Comment vous allez faire? Si vous n'avez pas de cendrier, c'est donc que vous allez l'acheter par la fenêtre. Vous n'avez pas vous n'avez pas mangé le mégot, quoi. Vous n'allez pas l'essuyer sous votre talon. Donc là, tu sanctionnes. Mais tu n'obliges pas tout le monde à avoir un cendrier, y compris les non-fumeurs, tu vois.
Si c'est dans la voiture, qu'est-ce que ça peut foutre? Si t'as un cendrier dans la voiture,
t'es pas
fumeur. De toutes les manières, tu l'utilises pas et ça te fait simplement une espèce de petite boîte en plastique qui est là, qui est installée.
Elle est pas en plastique, elle est en métal. Moi, je préfère avoir.
C'était en plastique.
Hein.
Tu éteins ta clope dans du plastique maintenant.
Mais tu l'enflammais pas. C'était des plastiques.
Non, parce que si t'es
avant dans les voitures dans les années 50-60, tu avais. C'était un cendrier en métal que tu déclipsais comme ça. Et puis après, quand tu arrivais et qu'il était plein. En général, tu faisais ça sur le trottoir, dans le caniveau. Tu sais, tu le vidais comme ça dans le caniveau, ce qui n'était pas très propre quand on connaît la durée de vie d'un mégot. Mais c'était comme ça qu'on faisait. Mais sinon, après, moi, dans ma voiture, j'ai connu les cendriers en plastique. C'était du plastique renforcé et tu éteignais ta cigarette comme ça. Alors, mais est-ce que c'est ça qui est le plus dissuasif ou est-ce que c'est au contraire de coller des amendes ou des peines de prison encore plus fortes?
Non, honnêtement, moi, je dis essayons. J'espère que ces imbéciles qui jettent leur club par la fenêtre trouveront que le cendrier est la solution. Essayons de toute façon. Pourquoi pas? C'est pas une mauvaise idée. Moi, je pense qu'un imbécile restera un imbécile, mais faisons confiance à un.
Est-ce que les constructeurs automobiles ont envie de jouer le jeu aussi? Est-ce qu'ils ont pas
de
préoccupation? Parce que c'est ce qu'il dit, le pompier. Il dit, il faut mettre la pression sur les constructeurs automobiles.
Moi, c'est plus à ça.
Les constructeurs automobiles, à mon avis, ils ont d'autres enjeux que se dire, on remet un cendrier.
Après, la pression, non, mais il faut discuter avec eux. Et comme tu dis, la question de la sanction. Si aujourd'hui, pourquoi les gens se comportent mal? C'est parce qu'on a plus peur d'être sanctionné. Je suis désolé si tu mets une grosse amende et si tu touches au casier judiciaire quand tu jettes ton mégot et que ça crée un gros incendie derrière, je peux te dire que les gens ils vont se calmer. Évidemment, mais faut plus qu'on ait peur de la sanction. Aujourd'hui en France, parler de la sanction c'est limite être liberticide. Non,
exactement.
Il faut même réapprendre à nos jeunes que l'interdit c'est une bonne chose. Lorsque celui-ci est juste. Parce qu'avec cet esprit 68arde, il est interdit d'interdire. Au bout d'un moment,
ça nous casse. Tu crois qu'on y est encore dans cet esprit?
Mais bien sûr que si. Mais 68, c'était bien. Il fallait certaines libertés. Mais
on en est sorti. On est plus, comme le dit Laura Varton-Martinez, on est plus dans la bêtise ou dans l'inconscience.
Non.
Que dans la,
Alain, encore aujourd'hui, quand tu parles de sanctions, déjà, on te dit tu es de droite.
Ce qui reste de mes 68.
Rien que parce que tu as osé parler de sanctions, tu es un droitard. Quand tu parles de l'interdit, alors là, tu es limite, je vais même pas citer de noms choquants. Aujourd'hui, il faut retravailler le rapport de la population à l'interdit. L'interdit, lorsqu'il est juste, c'est une bonne chose. Et derrière l'interdit, il y a une sanction dont la gravité
on a un pompier qui est avec nous, c'est Christopher qui est là, qui nous appelle de Vendée. Bonjour Christopher.
Oui, bonjour Alain.
Vous avez été mobilisé sur les incendies cet été, là d'ailleurs, Christopher?
Alors non du tout, pour des raisons personnelles et familiales, j'ai pas pu y aller. En revanche, j'ai eu beaucoup de collègues qui y ont été, et qui y sont encore d'ailleurs.
Parce que c'est pas terminé, il y a encore plein d'incendies, il n'y a pas d'incendie gigantesque comme on a connu, mais il y a toujours des départs de feu tous les jours et des petits foyers qu'il faut éteindre. Qu'est-ce que vous pensez de la proposition de votre collègue Grégory Allion?
Je trouve pas que forcément ce soit une très bonne proposition, tout simplement parce qu'il y a du bon sens à avoir de la part de la population. Et qu'aujourd'hui, tout le monde est capable, tous les fumeurs sont capables d'avoir, comme a dit Laura tout à l'heure, un restant de bouteille d'eau, avoir une petite boîte, un cendrier, etc. Et que je pense qu'honnêtement, il y a d'autres combats à mener de la part de Grégory Allion, notamment en ce qui concerne la santé du pompier, les moyens qu'on peut avoir aujourd'hui.
L'un n'empêche pas l'autre. Grégory Allion et vos collègues que l'on voit sur les plateaux se battent. Après, ils peuvent avoir des idées qui peuvent sembler anecdotiques, mais qui méritent le débat, qui méritent de réflexion. Voilà, Christopher.
Oui, tout à fait. Après, je parle vraiment du bon sens de la population, principalement.
Bon, ouais, mais l'appel au bon sens de la population.
C'est comme la clope sur la plage, hein. C'est exactement pareil. Moi, je vais voir les gens. Je m'énerve contre les gens. De voir les personnes qui plantent leur mégot de clope sur nos plages, ça me rend hystéro. Moi, à la fin de l'été, dans mon sac de plage, j'ai un nombre de bouteilles, parce que l'été, je me lâche un peu plus sur la clope. Mais j'ai un nombre incalculable de bouteilles de Saint-Georges remplies de mégots, de papier, de machin, de trucs.
Mais c'est interdit de fumer sur la plage maintenant, Laura. Attention.
Pas en Corse.
Pas toutes les plages.
Non. Si tu te fais choper en Corse en train de jeter un papier par terre sur la plage, d'oublier ta bouteille d'eau et de mettre ton mégot,
On s'en occupe, un coup de fusil.
Merci à Christopher d'avoir été avec nous. Sapeur-pompier, je trouve ça anecdotique. On va voir vous ce que vous en pensez, remettre des cendriers dans les voitures. Est-ce que c'est anecdotique? Est-ce qu'il faut le faire? C'est la proposition du député européen. Remettre des cendriers dans les voitures, c'est un oui à 73%.
Mais quand on voit les conséquences, on sait qu'il faut faire confiance au bon sens des gens, mais les gens n'ont plus de bon sens.
Une partie des gens.
Une partie des gens, oui, soyons nuancés, tu as raison.
Dans un instant, instants avec les GG, avec les grandes gueules. Le on s'en fout pas. Restez avec les GG. Louis Gerbier arrive. Un broglio financier sur la demeure du général de Gaulle. La billetterie à différents tarifs de la France insoumise. Et puis un ambassadeur en France, en Centrafrique, qui faisait des soirées à l'ambassade avec des jeunes filles. Ça mérite qu'on en dise deux, trois mots. À tout de suite.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Superposition générique, c'est pas grave,
Remix.
c'est l'été, le ça met du rythme, c'est ça, on s'amuse
c'est David
en, on s'amuse en régie, ah, on s'entraîne. Voilà. Abel Boyer est avec nous, Laura Varton-Martinez est des nôtres aussi, Antoine Diers aussi, consultant, éducateur, sophrologue, voilà les trois professions qui sont représentées aujourd'hui dans les grandes gueules. Tout à l'heure à 10h, vous pourrez intervenir au 32-16 sur ce qui s'est passé à Toulouse. Vous avez vu ces policiers municipaux qui ont été attaqués au couteau. L'homme qui les a attaqués, on a levé la garde à vue. On l'a placé en unité psychiatrique parce que son état est incompatible. Alors tout ce qu'on sait de lui, c'est qu'il est étranger. Il a crié, c'est ce que dit l'adjoint à la sécurité à Toulouse, il a crié plusieurs fois à la Ouagbar. Le parquet antiterroriste s'en est pas saisi. Qu'est-ce qu'il lui faut? Enfin, je sais pas, on est dans une attaque terroriste, oui ou non? On en parlera tout à l'heure à 10h. Vous venez commenter ça au 32-16, bien sûr. En attendant, à 10h moins le quart, c'est long, on s'en fout pas.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout. On s'en fout pas.
Louis Gerbier, bonjour.
Salut Alain, bonjour à tous. Alors, on va commencer avec une procédure disciplinaire engagée contre l'ambassadeur de République centrafricaine.
L'ambassadeur français en République centrafricaine.
Exactement. La cause, des invitations répétées dans ses appartements de jeunes femmes. Mmh. On s'en fout pas, Laura.
On s'en fout pas.
Abel.
On s'en fout pas.
Et Antoine.
On s'en fout pas.
C'est le Canard enchaîné qui révèle l'affaire. Bruno Fouché a pris l'habitude de faire venir une quinzaine de jeunes femmes par mois environ.
Par mois
Oui. Certaines passaient même la nuit dans la résidence du diplomate.
Jeunes femmes entre 20 et 30 ans.
Ouais, hein, 20 et 30 ans,
sûr,
exactement.
Qu'elles soient jeunes.
Et lui-même, il doit être un peu plus âgé que ça. Hein.
Oui.
Une soixantaine d'années.
L'ambassadeur a d'abord expliqué que s'il recevait régulièrement en tête-à-tête des étudiantes, c'était pour les aider pour leur scolarité,
oui.
En mettant à disposition sa bibliothèque.
C'est ça.
Tu veux voir ma bibliothèque?
Non, c'est pas drôle.
Il a même financé les études de l'une d'entre elles en lui remettant des enveloppes de billets.
Ah bah oui, voilà.
Bon, il a reconnu par la suite avoir eu des relations sexuelles avec deux d'entre elles. Et la nature de la sanction n'est pas encore connue, mais le motif de la procédure judiciaire est le suivant. Son comportement inapproprié a eu des conséquences graves en matière de sécurité et de réputation.
Oui, c'est ça.
Oui.
Laura.
C'est porte atteinte à l'État français. Non, mais on croit rêver. Enfin, pardon. Et le truc est sorti il y a à peu près 3 ans. Ça fait 3 ans que le dossier court et rien ne se passe. Il faut appeler ça un chat un chat. Pardon. C'est un réseau. Avec du viol à tire-larigot. Je suis.
Attention, attention.
Ah, rien
ne dit que c'est du viol. Attention,
alors une
prudent.
Suspicion de.
Non.
C'est pas de la prostitution.
C'est de l'imprudence aussi. Mais là, il y a rien qui a trait à des affaires de.
De toute façon, ces propos n'engagent que moi, évidemment.
L'antenne aussi.
Je les retire.
Merci Laura.
Je les retire.
En tout état de cause, ce qui est clair, c'est que c'est les gendarmes chargés de sa protection qui voient défiler des jeunes femmes rentrer dans une enceinte protégée. Une enceinte de la République française dans un territoire complexe et c'est eux qui font remonter à leur hiérarchie qu'il y a des failles de sécurité manifestes parce que l'ambassadeur fait rentrer des jeunes femmes et ça met beaucoup beaucoup de temps à remonter et intervenir pour faire changer cette situation.
Principalement
pensez
avec
pour ces agents chargés de la sécurité qui voient ça et qui doivent subir
mais
ça.
Mais comme on le hurle à tire-larigot avec Abel à longueur d'émission et à longueur de débat, la France protège tout ce genre de comportement. La France tait.
Il risque d'avoir des problèmes quand même.
Mais justement, tu viens de le dire. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit un média que l'on connaît pour révéler des scandales qui se mette sur le dossier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le Quai d'Orsay, mais qu'est-ce qu'il fait depuis plus de 3 ans qu'il est au courant de ça? Les policiers ont fait leur boulot, le GIGN s'est saisi de l'affaire, mais on en est où au bout de 3 ans?
Abel.
Et puis il y a cet esprit très colonialiste. Là, on a l'épisode maintenant de Tintin en Centrafrique dans l'affaire du diplodocu perdu, c'est-à-dire J'imagine cet ambassadeur fan de toutes ces Amazones noires qu'il peut impressionner, bien entendu, parce qu'il les prend très jeunes. Et je peux te montrer mon pouvoir, et je peux te montrer mon influence. Comme tu l'as dit, la Centrafrique, c'est un territoire extrêmement complexe, extrêmement tendu, de par son histoire et de par les pays limitrophes aussi. Donc on a affaire...
Et l'influence russe qui est en ce moment.
Exactement, aussi, bien entendu. Et les Chinois aussi, qui est... enfin voilà, c'est très complexe. C'est très complexe.
C'est même imprudent, parce que lorsqu'elles vont dans l'ambassade, j'imagine qu'elles voient des choses.
Mais oui.
Je ne sais pas de quoi on parle sur l'oreiller, mais ensuite elles ressortent. Ouais. Certaines peuvent être aussi soudoyées par des puissances mais étrangères.
Exactement.
Enfin, mais voire,
comme dit Laura, 3 ans. Enfin, non, tu le prends, tu le rapatries tout de suite et tu le vires.
Mais justement,
il est toujours en poste. Hein.
Le canard enchaîné explique que la situation que vous évoquiez en Centrafrique est la raison pour laquelle ça prend du temps, parce que les relations se réchauffent entre les deux pays, la France et la Centrafrique. Et la Russie a fait beaucoup d'ingérences dans ce pays. Mm-hmm. Et donc, en gros, au Quai d'Orsay, on se dit c'est peut-être pas le moment de
mais là,
stabiliser.
Mais là, t'incrimines pas le Centrafrique.
Tu pouvais changer d'ambassadeur,
oui,
en fait.
Oui, c'est ça. Ouais. Tu peux quand même au minimum faire ça.
Il a peut-être des relations personnelles fortes avec le pouvoir en place. Voilà. Donc, effectivement, c'est un choix
C'est d'autant plus hypocrite, parce que dans ce cas, laisse-le. Ben laisse-le malgré la sortie médiatique si les relations sont si bonnes que ça.
C'est peut-être ce qui va se passer.
Ouais.
Bon, enfin bon. Ouais. Moi, je trouve pas ça très prudent. Le général de Gaulle raconte le canard quand il y a eu des histoires.
Exactement.
Il avait été plus prompt à virer les diplomates dans ces cas-là. Quoi.
Avec cette phrase. Mais alors, vous couchez, monsieur?
Vous couchez dehors. Justement, parce qu'on parle de Gaulle.
Quelle transition. J'ai l'impression que c'est ton métier, Alain. La demeure historique du fondateur de la Ve République à Colombey-les-Deux-Églises semblait être sur le point d'être vendue à l'État. Mais Pierre de Gaulle, l'un des héritiers, menace de faire avorter le projet. Abel, on s'en fout,
Moi, je m'en fous.
Moi aussi.
Abel.
Antoine, moi, on s'en fout pas. On s'en fout pas.
On se ressent
pas.
Excuse-moi.
On s'en fout pas du tout.
Des jumeaux. À s'y méprendre.
Alors, on s'en fout pas du tout. Pierre de Gaulle, l'un des plus jeunes des quatre fils, hein, mais surtout un soutien affiché de Vladimir Poutine, a lancé un appel. Je cite, Français, aidez-moi à sauver la maison familiale du général de Gaulle, propriété de ma famille depuis 1934. Elle est menacée par des appétits et des intérêts politiques qui ne sont pas ceux que voulait le général.
Pourquoi tu t'en fous pas? Est-ce que c'est à l'État de récupérer la boisserie, c'est-à-dire Colombey-les-Deux-Églises?
Faut avoir fait le voyage à Colombey. Je l'ai déjà fait quelques fois avec des amis. C'est un haut lieu de ma famille politique. Quand on est de droite, on y va avec les militants, on y retourne avec eux, avec les amis. Et ce passage dans la maison est assez puissant. On imagine le général à chaque endroit, on voit ce bureau où il a rédigé ses mémoires avec la vue sur la vallée derrière. Bref, ce lieu est un lieu important de l'histoire française. Est-ce que il doit naturellement retomber dans les mains de l'État? Je suis pas sûr. Est-ce qu'il devrait être conservé par la famille qui se réunit encore à l'étage? À l'étage de la maison, il y a une partie qui n'est pas ouverte au public, où il y a encore la famille qui fait vivre l'héritage du général de Gaulle. Et donc, je suis très embêté. Il faut que cette maison reste ouverte, mais est-ce que l'héritage est mieux conservé par la famille ou mieux conservé par l'État?
C'est eux qui veulent la vendre.
Mais pas tous, tu vois. Il y a une partie de la famille qui
veut
pas vendre.
Il y a aussi dans la famille, voilà.
Et donc, moi, je maintiens que, en fait, ça devrait être la famille.
Et
peut-être qu'il faudrait une fondation avec du privé. Je suis pas sûr qu'il faille donner à l'État.
Est-ce que c'est à l'État de récupérer effectivement la maison du général?
C'est la maison personnelle.
Oui, bien sûr,
famille.
C'est sa maison familiale qu'il avait achetée en 1934. Mais c'est-à-dire que si le fils n'a plus les moyens de l'entretenir, moi je ne serais pas choqué. Je veux dire, l'État dépense suffisamment d'argent de manière dispendieuse pour que si on me dit on rachète la boisserie qui est la maison du général de Gaulle pour en faire un musée, pour en faire une visite, ou si c'est le département qui le rachète, moi j'y vois aucun problème.
Moi je serais la famille, je ferais un appel aux dons pour que ça reste dans la famille.
Il a lancé un appel aux dons, apparemment la cagnotte ne bouge pas, tu vois. Ah. Moi, je pense que pour les Français, De Gaulle, c'est le patrimoine national, c'est pas la famille. C'est-à-dire, De Gaulle, c'est un nom qui est inscrit dans l'histoire de France.
T'as le mémorial.
Français, aidez-nous à sauver la boisserie. Ou si la famille dit aidez-nous à sauver la boisserie, moi, personnellement, je donnerais pas. Tu vois, pourtant, j'aime l'histoire. Général De Gaulle est
un peu pingre aussi.
Parce que je me dis, De Gaulle, c'est l'État. De Gaulle, c'est la patrie. Faites un effort pour la boisserie au ministère de
ça
la culture.
Ça tient aussi. Okay.
C'est à vous à sortir le carnet. C'est au patrimoine, au loto du patrimoine.
Et puis, c'est un lieu stratégique. Il y a eu des réunions avec des chefs d'État du monde entier qui sont venus. Il y a des décisions importantes qui ont été prises.
Un peu l'ancien Mar-a-Lago.
Allez, dans un instant, Toulouse, agression des policiers municipaux. Est-ce qu'on a affaire à une affaire terroriste? 32-16 pour venir en parler avec les GG.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.